Vous êtes sur RTL.
RTL.
Le journal inattendu.
Être dans un anticyclone, cela signifie avoir des vents relativement faibles. Cela veut donc dire que même si l'on cherche à sortir, c'est-à-dire à aller chercher des vents plus forts, on va perdre beaucoup de temps.
Il faut bien voir que ces bateaux-là, en une seule journée, peuvent traverser la France. Vous imaginez à quelle vitesse il faut réagir par rapport aux éléments météo qui arrivent.
Là, je me trouve dans le cockpit d'un KC-135. C'est un avion ravitailleur et il fait partie du groupement de ravitaillement en vol. On va décoller là dans quelques instants.
12h30, 13h30.
Toute la vie.
Demain, ça sera encore du soleil, encore et encore. C'est vrai que le soleil dominera partout et encore plus facilement qu'aujourd'hui.
Le temps gris laisse la place à l'éclaircie.
Et à surveiller peut-être une averse orageuse près des Pyrénées ou encore dans les Alpes du Sud.
Et il faut apprécier autant la pluie et le autant.
Louis Baudin est l'invité du journal inattendu sur RTL.
La pluie.
Vous l'avez compris, Louis Baudin, votre monsieur météo d'RTL et de TF1, est le rédacteur en chef du journal Inattendu. Alors, pour vous dire les choses tout à fait clairement, il était sur TF1 il y a quelques minutes, il est venu en moto, il a croisé quelques gilets jaunes, donc forcément il a pris un petit peu de retard entre TF1 et les studios d'RTL ici à Neuilly, mais lui qui est toujours à l'heure pour ses bulletins météo, eh bien il arrive avec un petit peu de retard ici même dans les studios d'RTL, mais il arrive, il est là et je suis ravi de l'accueillir, Louis, élégant comme toujours, comme d'habitude. Bonjour Louis.
Bonjour.
Peut-être un petit peu essoufflé.
Oui, ça va.
Voilà. Vous êtes d'ailleurs, Louis, le premier invité du journal Inattendu que j'appelle par son prénom. Je vais tâcher de
on
pas...
On a quand même un peu travaillé ensemble.
Ben, quand même, hein, on se connaît bien. Alors, Louis Baudin, en tout cas, merci d'être le rédacteur en chef de journal Inattendu dans la foulée de la sortie d'un livre qui peut expliquer bien des choses de notre quotidien. Nous sommes tous météo-sensibles, dites-vous. Dans cet ouvrage sorti il y a quelques jours chez Albin Michel, vous nous expliquer comment la météo agit sur nous, sur nos comportements, voire sur nos sentiments. On va bien sûr en parler avant de passer à table. Parce que ça, je sais que c'est une de vos passions. Météorologue et gastronome, vous avez invité Jean-Michel Lorrain, le grand chef de la célèbre Côte Saint-Jacques à Joigny. J'ai vu que vous l'avez déjà salué. Et il sera avec nous tout à l'heure à 13h. On va parler de vos passions. On l'a entendu d'ailleurs dans cette présentation, la voile, l'automobile, l'aviation, de vos engagements, notamment avec l'association T'as un ami que vous parrainez, ce sera le reportage inattendu. Et puis de vous, bien sûr, vous qui accompagnez depuis des années les auditeurs d'RTL, notamment le matin, et des téléspectateurs de TF1, notamment le week-end. Mais vous allez peut-être lever avec nous un coin du voile, car avant les infos que vous allez pouvoir commenter, il faut, cher Louis, je sais que c'est pas facile, vous tirer le portrait.
Ouais. Non, c'est vrai que c'est un exercice compliqué, mais moi j'ai choisi deux axes qui ont conditionné ma vie. Pour ceux qui me connaissent, ils s'en doutent un peu. Ceux qui me connaissent pas, vont peut-être le découvrir. C'est effectivement, moi, c'est par le sport, c'est par l'engagement autour du sport. J'ai eu la chance d'avoir des parents, d'un milieu relativement modeste, mais qui en tout cas nous ont transmis très vite cette envie de pratiquer le sport en pleine nature. Moi, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la voile, j'ai fait de l'aviation.
L'athlétisme, vous avez eu des résultats étant jeune.
Au niveau national. Exactement, et même une fois international dans un match contre la Belgique, où d'ailleurs j'avais été lamentable, mais bon, je faisais du demi-fond, mais si, je m'en souviens, parce que quand même, quand on représente son pays, il y a tout de suite une autre dimension quand même. Je m'en rends compte avec le recul. Donc voilà, ce sont ces éléments-là qui, très jeune, m'ont façonné ce chemin, et on le retrouve tout au long de ma vie, puisque petit à petit, j'ai voulu devenir météorologue pour revenir dans des milieux comme la voile et comme l'aviation, avec toutes les valeurs qui vont avec, c'est-à-dire la patience, où on apprend le rapport à la nature, on apprend également une autre dimension, ça c'est important, on y reviendra sûrement, c'est que le météorologue très vite, il apprend que il n'y a pas de frontières, les nuages n'ont pas de frontières, la nature n'a pas de frontières. frontières. C'est complètement désuet, ça appartient à l'homme, mais la planète, elle...
Elle vit sans frontières,
oui, ça veut
depuis
dire
la nuit des
depuis
temps.
Depuis la nuit des temps. Et je pense qu'un jour, on se dira, mais il y a eu des frontières à une époque, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, tout cet apprentissage, et puis ensuite, eh bien, grâce à la voile, la course au large, j'ai eu la chance de pratiquer le sport à haut niveau, avec des gens qui étaient très compétents, des navigateurs. Et là, ça vous apprend quoi? Ça vous apprend la patience, la frustration. Vous ne gagnez pas tout le temps, et quand vous perdez, vous n'êtes pas content quand on est un compétiteur. Donc on apprend également le rapport aux autres, on apprend à être humble, on apprend l'humilité, ce que la météorologie, voilà, puis ainsi de suite. Et petit à petit, j'en suis venu aux médias comme un moyen de communication extraordinaire, de raconter toutes ces passions à travers la météorologie, à travers cette passion de la nature. Et puis vous voyez, ça m'amène aujourd'hui à avoir la chance de pouvoir partager ça avec des auditeurs à travers une émission comme celle-ci.
Eh bien, on va y revenir, on a une petite heure pour cela. Avant cela, Louis, évidemment, l'actualité de ce samedi 16 novembre, c'est le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Je crois que vous en avez croisé quelques-uns en venant de TF1 à moto. Alors, il y a eu des tensions ce matin dans la capitale, notamment dans le secteur de la porte de Champéret, de la porte d'Italie, mais la tendance est à l'accalmie. Nous serons sur le terrain tout à l'heure. En région, les Gilets jaunes sont également présents, notamment sur des axes routiers ou autoroutiers, pour l'instant sans blocage. Il y a encore 170 000 foyers privés d'électricité dans l'Ardèche, l'Isère, la Loire, le Rhône et la Drôme. Là encore, et on y reviendra, conséquence de la météo, des chutes de neige, Enedis multiplie les interventions. Un camouflet politique pour le gouvernement, désavoué par l'Assemblée et donc par sa majorité, qui exclut l'huile de palme de la liste des biocarburants bénéficiant d'un avantage fiscal. Et puis la météo. Valérie Quintin, attention, le taulier vous écoute.
J'ai entièrement confiance.
Oui,
je vais faire attention quand même. Alors, on a deux départements qui sont placés en vigilance cet après-midi, ça va durer aussi une partie de la nuit. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, on a de fortes pluies orageuses déjà actuellement, ça va un petit peu s'acharner, ça va faire un peu de surplace, des pluies qui vont un petit peu bifurquer vers l'est, mais en attendant, il faudra quand même rester très très prudent sur ces régions. Du coup, ça donne des pluies aussi qui remontent jusqu'au Limousin, qui touchent presque le Massif central, ça donne de la neige en montagne, à presque 1000 mètres sur les Pyrénées, mais à 600 mètres sur l'ouest du Massif central, et ailleurs, c'est surtout la grisaille qui domine, avec quand même une petite chance d'éclaircie un petit peu plus vive sur les régions de l'est. Il s'agira d'en profiter parce que demain, c'est pas la même chose, sachant qu'il y aura quand même quelques averses orageuses attendues aussi entre les Alpes-Maritimes et la Corse. La bonne nouvelle, c'est les températures. Ça paraît pas, mais il fait un peu moins froid qu'hier quand même. 4 degrés à Langres cet après-midi, 6 à Limoges, 7 à Armentières, 8 à Paris, 9 à Dieppe et Lyon, 10 à Toulouse, 12 degrés sur Narbonne et 16 à Bastia.
Merci Valérie Quintin. Et alors, ce qui tombe bien avec la présence de Louis, c'est que vous n'êtes même pas obligé d'écrire la météo de 13h. On vous a installé des cartes,
oui,
Louis.
Je vois ça, il y a tout ce qu'il faut.
Et je pense que ça devrait être dans vos cordes, la météo de Louis Baudin.
On va essayer.
Le journal inattendu sur RTL.
Mais on parle météo, justement, parce que deux jours après les fortes chutes de neige tombées dans la Drôme, en Ardèche, dans l'Isère, la Loire ou dans l'Ain, 170 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin dans un bon nombre d'habitations. Il a donc fallu passer une deuxième nuit sans chauffage, après une deuxième soirée à la bougie. Au plus fort de la crise, 330 000 foyers étaient privés de courant. Ça va donc mieux grâce aux 2200 agents d'Enedis mobilisés sur le terrain. Mais donc, il y a encore beaucoup à faire. Hugo Hamelin, vous êtes à Chabieux, c'est dans la Drôme, auprès justement d'une équipe de techniciens au travail.
Absolument, une équipe d'une quinzaine de techniciens aux côtés d'un imposant camion bleu pour atteindre les pylônes électriques au milieu des champs enneigés. Philippe Monloubou, le président d'Enedis, est sur place pour constater l'étendue du chantier.
Donc là aujourd'hui, on a 2000 techniciens qui sont mobilisés, qui sont à pied d'œuvre. 200 groupes électrogènes qui ont été approvisionnés, qui ont permis là aussi de réapprovisionner des villages isolés. Voilà, donc la situation est maintenant, je dirais, dans un mode dynamique total. Si on arrive à faire voler les hélicoptères, on peut penser qu'à l'issue du week-end, la très très grande majorité des clients seront alimentés.
Des hélicoptères qui ne peuvent pas voler pour le moment parce que le ciel est trop bas et qui servent à repérer les zones où il n'y a plus d'électricité. Concrètement, il va falloir abattre des poteaux électriques, dégager certaines routes encombrées par des branches d'arbres cet après-midi. Jérôme pilote le chantier ici.
La neige s'est collée sur les fils et avec le poids, on a eu des conducteurs, des fils électriques qui ont rompu et des poteaux cassés. On va couper, s'assurer que le courant est bien coupé de part et d'autre, qu'il n'y a pas de possibilité de réalimentation. Et une fois qu'on a sécurisé la zone, on va pouvoir entamer les réparations. Il va nous falloir 3 heures pour déposer les fils électriques à terre, procéder aux réparations et pouvoir les remonter sur un poteau tout neuf.
La bonne nouvelle pour les habitants du secteur, mais conséquence de ces nombreuses coupures d'électricité, plusieurs personnes ont été intoxiquées ces dernières 24 heures au monoxyde de carbone à cause de chauffage d'appoint défectueux.
Merci beaucoup Hugo Hamelin qui était en direct, vous l'avez entendu, de Chabieux dans la Drôme. Sachez que côté SNCF, de nombreuses lignes TER sont toujours perturbées. Valence-Grenoble restera fermée jusqu'à mardi, Lyon-Grenoble jusqu'à lundi et Valence-Gap jusqu'à demain. C'est vrai Louis, à chaque fois on se fait la même réflexion d'ailleurs et ça c'est dans la droite ligne de votre livre, ouais. Hein, on est tous météo-sensibles. Bon, la neige en novembre, c'est finalement assez normal.
Oui, c'est même si de telles quantités c'est plutôt rare, mais ça arrive tous les 5-10 ans, ouais. Et oui, ça s'inscrit dans une normalité, en tout cas dans des possibilités en France, ça c'est clair.
Et on est étonné des perturbations que ça provoque.
Mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que mon livre voulait mettre en chemin, n'oublions pas ce rapport à la nature. Quoi qu'on fasse, la nature sera par moments toujours plus forte que nous, et soit on s'adapte, soit on fait avec, soit évidemment on se dit à chaque fois on est surpris, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y aura toujours des moments où cette nature va nous arrêter et il faut en prendre partie. J'entendais ce matin un témoignage extraordinaire disant ah ben ouais, on a retrouvé la bougie, on a passé une soirée en famille, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait
pas
rien,
d'internet.
Et puis d'un seul coup on a retrouvé une relation et autres. Bon ben voilà, c'est peut-être l'occasion effectivement de revenir à des valeurs ou à des choses un petit peu plus simples qu'on a un peu oubliées. Alors évidemment, c'est pas...
On dort avec des chaussettes et puis voilà, hein,
évidemment, c'est pas fait pour durer, on a envie de vivre dans une période un peu plus confortable. Mais oui, par moments, la nature se rappellera à nous et parfois un peu brutalement.
Allez, on marque une courte pause dans ce journal inattendu de Louis Baudin. Ensuite, on sera à Paris, dans le secteur de la place d'Italie, avant la manifestation des Gilets jaunes. C'est étendu ce matin, ça va mieux en ce moment dans la capitale. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL, avec Louis Baudin et Vincent Parisot.
À la fin des années.
Le journal inattendu sur RTL, avec Louis Baudin et Vincent Parisot.
Et l'actualité de ce samedi, c'est aussi le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Ça a été tendu ce matin dans la capitale. Il y avait eu pourtant près de 1500 contrôles préventifs. On compte pour l'instant 41 interpellations. Des manifestants s'étaient déployés sur le périphérique, bloquant la circulation au niveau de la porte de Champéret. Ils ont été délogés. Mais dans ce secteur de l'Ouest parisien, si la situation a été tendue ce matin, en ce moment, ça va beaucoup mieux, c'est plus calme, tout comme au sud de la capitale, place d'Italie, où vous vous trouvez, Romain Houguin.
Oui, déjà plusieurs centaines de personnes se sont réunies tout autour de la place et beaucoup continuent d'affluer alors qu'une manifestation déclarée en préfecture doit partir d'ici tout à l'heure. Elle est prévue à 14h. Alors vous l'avez dit, un rassemblement ponctué de quelques incidents. Un peu plus tôt dans la matinée, des barricades ont été érigées puis enflammées. Les forces de l'ordre ont riposté avec quelques tirs de gaz lacrymogène, mais la situation est à nouveau plutôt calme. En tout cas, rien ne semble démotiver les gilets jaunes présents ici pour fêter l'anniversaire du mouvement. C'est le cas de Sandrine, 48 ans, venue de Strasbourg avec une amie.
Il n'y a pas d'évolution, donc il y a toujours l'espoir qui reste cependant. Parce qu'il n'y a que ce moyen, il nous reste que ce moyen pour essayer de faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre de toute façon? Et même ça, on ne peut pas l'exploiter correctement parce que de toute façon, il y a une répression terrible. Donc voilà. Mais malgré tout, eh ben on est là.
Voilà, comme Sandrine ici, beaucoup font le même constat. Rien n'a changé, selon eux, depuis l'année dernière. Tous ici espèrent donc enfin faire entendre leurs revendications.
Merci Romain Hougue. Voilà pour la situation donc dans la capitale. De nombreuses stations de métro et de RER, hein, faites attention, sont fermées pour l'instant jusqu'à nouvel ordre. Et puis des rassemblements prévus dans plusieurs grandes villes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse. Et puis également des appels à réinvestir les ronds-points avec ou sans blocage. Quel regard vous portez sur ce mouvement?
C'est étonnant parce que voilà, ça montre bien qu'on a laissé des gens sur le bord de la route dans une société qui est plutôt favorisée. Enfin, encore en France, on reste dans les pays dits économiquement à peu près stables. Et puis en même temps, on a voilà, cette pauvreté qui augmente. Je prends l'exemple de la Haute-Savoie parce que j'y étais pour une conférence il y a deux jours. Ouais. Et en fait, c'est un département qui se porte plutôt bien, qui économiquement, grâce à la montagne, grâce effectivement à l'activité touristique. Puis il y a aussi un secteur industriel qui fonctionne très bien. Ben, la pauvreté a augmenté dans ce département. Et puis en même temps, j'ai quelques amis qui ont des petites entreprises, des petites affaires, qui nous disent « Louis, on n'arrive pas à recruter ». Donc je me dis, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça va pas? Pourquoi est-ce que effectivement, dans un pays qui essaie de prendre des mesures, qui essaie de se développer, on a laissé autant de gens sur le bord de la route, et en même temps, il y a un problème de recrutement. Donc voilà, je me dis, faut qu'on y arrive, quoi, bien parce sûr. Qu'il n'y a pas de raison. On est dans un pays qui a tout le potentiel pour se développer et pour que finalement peu de gens soient à la marge de cette vie un peu plus confortable.
Problème de recrutement. Je voyais derrière vous, derrière la vitre, Jean-Michel Lorrain, le grand chef de la Côte-Saint-Jacques, approuvé.
Mais oui, on en parlera peut-être avec lui aussi.
Il a des difficultés à recruter, sans doute. Je voudrais aussi qu'on parle, alors non pas de politique, mais ce qui s'est passé hier et qui est quand même un sérieux revers politique pour le gouvernement. C'était à l'Assemblée. Tout était parti du tollé suscité par le vote jeudi, sans vrai débat, d'un amendement qui prévoyait de reporter à 2026 l'exclusion de l'huile de palme de la liste des biocarburants bénéficiant d'un avantage fiscal. Texte donc jugé très favorable au groupe Total. Les écologistes avaient crié au scandale. La majorité ne cachait pas son embarras. Du coup, Édouard Philippe a demandé un nouveau vote, tout en rappelant que le gouvernement était favorable à cet amendement. Résultat, patatras. Texte rejeté très largement, coup dur pour l'exécutif. Et ça, Vincent Derosier, à un moment où il aurait bien besoin du soutien de sa majorité. Hein.
Oui, c'est sûr que ce n'est pas le week-end idéal pour essuyer un désaveu de sa majorité. L'exécutif aime répéter qu'il n'y a pas de frondeur à l'Assemblée. Pourtant, c'est bien une fronde massive qui a eu lieu hier dans l'hémicycle. Il est presque 21h lorsque les députés de la majorité s'opposent au gouvernement sur l'huile de palme.
Voici le résultat du scrutin. Votant 60 pour 2 contre 58. L'article 72 est donc rejeté.
Pourtant, Édouard Philippe a bien tenté de convaincre les députés en expliquant que cet amendement était un moyen de préserver l'emploi et la planète. La ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, a appelé les marcheurs à être raisonnables. Les députés n'ont rien voulu entendre. Pour l'exécutif, c'est une vraie gifle. À mi-mandat, la majorité rappelle aussi au président Macron qu'elle a sa liberté de vote. Un coup dur pour le chef de l'État qui peine à convaincre l'opinion de son engagement écologique.
Vincent Derosier, ben voilà, parce que l'engagement écologique de la part du gouvernement, il est affiché. L'huile de palme, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet et justement qui nous met face à cette épreuve de on dépasse les frontières. Ouais. Là, d'un seul coup, voilà, le problème du de palme, il n'est pas en France. Il vient bien d'ailleurs, il vient d'occupation des sols ailleurs. Donc voilà, là, on est au cœur de ce qui doit être demain notre préoccupation et notre comportement de citoyens. Mmh. Ce qui apparemment en France pour certains députés se passe plutôt bien parce qu'effectivement on doit dépasser nos simples intérêts entre guillemets, même s'il faut aussi les préserver. Hein. Moi je suis pas dans l'hypocrisie ou dans l'utopie, mais il y a des moments où oui, il faut peut-être prendre d'autres décisions. On en parlera peut-être, mais la forêt, l'arbre, c'est probablement une partie de l'avenir de l'homme parce que l'arbre sera un des éléments importants pour intégrer ou atténuer le CO2. Donc vous voyez, voilà, et d'un seul coup on prend cette dimension mondiale et on doit l'intégrer dans notre propre réflexion de citoyen français.
Le reportage inattendu.
Alors là, on change complètement de sujet, Louis. Le reportage inattendu, vous avez souhaité le consacrer à une association dont vous êtes le parrain. T'as un ami, T-A-1-A-M-I, qui organise des visites régulières d'un ami bénévole auprès d'une personne seule ou en grande solitude. Pourquoi vous avez d'abord choisi cette association ?
Tout simplement parce que je crois que la solitude et puis tout ce qui va... 5 millions de personnes isolées. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et on pense que c'est essentiellement des personnes âgées. Oui, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont délaissées, qu'on abandonne. Mais il y a aussi toutes les couches de la société. On peut se retrouver jeune et seul. Imaginez, parce qu'on est à la marche, parce qu'on n'arrive pas à être dans cette espèce de train, ce TGV rapide de la vie d'aujourd'hui. Et moi, je trouve ça fondamental de retrouver du lien social et tout ce qui va aller avec. C'est-à-dire que si on a un lien social, on retrouve de la confiance. Si on a de la confiance, on va peut-être retrouver un métier, des rapports, peut-être un amour, peut-être. Voilà, donc ça me paraît fondamental.
T'as un ami, association née dans le Nord en 2004, présente dans tout le pays, mais c'est dans la région de Lille qu'elle est le plus implantée. Qu'elle a commencé. Reportage inattendu signé Franck Hanson.
Bonjour, chère Suzanne.
Bonjour, Lilia.
C'est une visite toujours très attendue par Suzanne. Dans sa maison de retraite du Vieux-Lille, cette dame de 93 ans qui vit seule reçoit Diane, sa jeune amie étudiante bénévole.
Ça fait plus d'un an maintenant que je connais sœur Suzanne.
Oui.
On a lu quelques livres depuis.
Policiers, n'est-ce pas ?
Des enquêtes.
Je ne sais plus lire du tout. Je suis à la limite de la vue.
Je prête mes yeux le temps de la lecture. Une fois par semaine.
Et on parle entre deux.
Entre les deux, le contact est vraiment passé.
J'avais envie de m'engager dans quelque chose. Enfin, c'est vraiment un plaisir de voir Sœur Suzanne toutes les semaines.
Et puis hier, je dis pourvu que Diane soit là.
Cette relation a été initiée par l'association T'as un ami, fondée il y a 5 ans par Jean-Jacques Desrosiaux, cadre dans les assurances, ancien visiteur de prison. Son objectif, lutter contre la solitude en tissant des liens.
L'objet de l'association, il est relativement simple, c'est créer des binômes d'amitié. Mettre en relation une personne isolée avec un ou une amie bénévole. Et l'objectif, c'est se rencontrer toutes les semaines, partager, discuter. Nous accompagnons des personnes de 5 ans à plus de 100 ans. 70% ont plus de 70 ans. Après, nous accompagnons des enfants. Ce sont des enfants qui arrivent, par exemple, en France et qui sont aussi isolés. Nous les aidons, effectivement, à se réintégrer dans les écoles. Beaucoup de femmes monoparentales.
Les bénévoles s'engagent à faire au moins une visite par semaine à leurs amis isolés. L'association veille au mélange des générations.
On ne veut pas que des retraités, même si on les adore, on ne veut pas que des jeunes étudiants, même si on les adore, on veut vraiment la diversité générationnelle. Notre bénévole la plus âgée, je crois qu'elle a 94 ans.
En contact avec les collectivités ou établissements spécialisés, T'as un ami recrute des bénévoles dans toute la France et a toujours besoin de se renforcer.
Nous sommes persuadés que ce lien est source de bénéfices pour la personne isolée. La personne aussi reprend contact avec le monde extérieur. Et quand on arrive jusqu'à cette reprise de contact, on a tout gagné. Un monsieur qui se laissait mourir, lorsqu'on lui a mis une jeune bénévole, il avait envie de s'en sortir quand même. Il s'est mis costume, cravate, parfum. Il revit, c'est-à-dire il a retrouvé ses contacts.
Je trouve que c'est une meilleure façon de passer son temps que rester chez moi, regarder des séries.
Ça me plaît beaucoup, on s'entend très bien.
Je préfère sortir et apporter du bonheur à quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de faire semblant, quoi. C'est comme ça. Sœur Suzanne, c'est un peu ma troisième manie.
Et pour renforcer ces liens, des sorties culturelles sont aussi organisées.
Un reportage signé Frank Hanson, reportage inattendu. Ce qui est formidable, c'est que c'est une personne avec une personne et que ce lien, il se construit dans le temps.
Vous avez vu, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la confiance, ça profite aux deux, c'est un vrai échange, chacun s'y retrouve, donne, et ça me donne le frisson, je trouve ça génial.
T'as un ami, T-A-1-A-M-I, allez voir sur internet, et vous pouvez notamment proposer vos services.
Oui, exactement, les soutenir, parce que malheureusement, il y a une demande qui explose en France, et ce que me disait son président, on est un peu dépassé par, malheureusement, la nécessité. Ouais.
Louis Baudin est l'invité et le rédacteur en chef de ce journal inattendu. Nous sommes tous météo-sensibles. Le livre est sorti chez Albin Michel, on en parle tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL. Cuir.
Le journal inattendu de Louis Baudin.
Avec Vincent Parisot sur RTL.
Nous sommes tous météo-sensibles. Voilà ce que nous dit Louis Baudin. C'est sorti chez Albin Michel. Vous proposez d'ailleurs, Louis, à la fin du livre, un petit test à faire chez soi. Voilà. Pour savoir si on est plus ou moins baropate. Baropate, comme vous dites. Alors moi, je ne suis pas trop. 21 points. Ça veut dire que la météo ne me perturbe pas particulièrement.
Exactement.
Et vous? Vous avez fait le test, Louis?
Oui, j'ai fait le test, mais alors moi je suis pas objectif, parce que de toute façon c'est devenu aussi mon métier, ce rapport à la nature, à la météo, et puis maintenant dans mon rapport avec les autres.
Oui, c'est ça.
Donc
c'est truqué.
C'est un peu truqué
c'est
quand même.
Truqué.
Mais moi je suis très météo-sensible, dans le sens où moi je suis un jouisseur, j'ose le dire, et j'aimerais que les gens retrouvent ce plaisir d'être avec la nature. Parce qu'on a 5 sens, ne l'oublions pas, et ces 5 sens, si on les met en harmonie avec la nature, on parlera de la saveur, par exemple du goût tout à l'heure, on va voir que ça aussi est un moyen d'avoir du plaisir à travers cette nature. Donc moi, c'est ce qui m'habite. En fait.
Alors, j'ai l'impression que le mieux pour le moral, c'est un temps beau et froid ou frais. Est-ce que notre pire ennemi, c'est la forte chaleur? J'ai l'impression que c'est quand même le plus difficile.
Ben oui, parce que c'est probablement le phénomène météo dont on a le plus de mal à se protéger. Ouais. Du froid, on se couvre bien. Bon, hormis des froids extrêmes, mais sinon un froid en Europe, on s'en protège relativement bien. On a maintenant des maisons plutôt bien chauffées, en tout cas bien aérées. Enfin, tout ça évolue bien dans les bureaux également. En revanche, la chaleur, c'est compliqué. On a beau mettre la climatisation, il y a toujours des moments où on sort, on va être dans cette forte chaleur. Et les fortes chaleurs, ça fait partie des phénomènes où l'organisme souffre pour les personnes les plus fragiles. Donc effectivement, c'est probablement ce qu'on supporte le moins bien.
Pourtant, la chaleur attire les vacanciers. Vous expliquez dans le livre...
Chaleur raisonnable aussi.
Que ces dernières années, vous êtes devenu une véritable agence de voyage. Dès qu'on vous voit, alors Louis, est-ce que je peux partir cet été en Bretagne ou...
C'est ça, je suis devenu un devin, ça c'est clair. Mais bon, malheureusement, je ne le suis pas. Les prévisions restent encore très modestes. Passer une semaine, 10 jours, si vraiment je suis très optimiste, je ne sais pas ce qui va se passer. Ouais. Donc, faut rester humble par rapport à ça. Bon, il y a un peu la climatologie qui peut quand même donner des indications sur les chances d'avoir du beau temps ou pas.
Je voudrais qu'on parle évidemment forcément du dérèglement, du changement climatique. On va y revenir. Vous dites halte à la sinistrose, arrêtons l'hystérie, car c'est contre-productif. Vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, mais ce que je vous propose d'écouter, c'est quelqu'un que vous adorez. Michel Serres, le philosophe, je crois que vous l'avez croisé d'ailleurs ici.
Ouais, j'ai la chance de l'inviter dans mon émission élémentaire.
Ouais. Alors voilà ce qu'il disait en 2015 sur le réchauffement, sur notre capacité à nous adapter, à éviter de couler, parce que c'est l'ancien marin, il a été marin, écoutez-le.
À un certain moment, résonne sur le bateau, attention, nous coulons. Poste d'évacuation, on appelle ça poste d'évacuation. Oui, mais il n'y a pas d'évacuation possible. Par conséquent, est-ce que l'humanité prendra suffisamment conscience des dégâts faits à son bateau pour se mettre ensemble pour réparer les dégâts? Voilà, c'est toute la question. Et la nouvelle société ressemblera alors à un équipage qui met ses forces ensemble pour réparer les dégâts faits au bateau, parce qu'autrement nous coulons.
Voilà. Je dis ça parce qu'il n'est pas dans le catastrophisme, justement. Il est dans la projection d'une nouvelle société. C'est un peu l'anti-Greta Thunberg.
Exactement. Mais moi, c'est ce que je remarquais quand il avait plus de 80 ans, la dernière fois où j'ai eu la chance de parler un peu avec lui. Moi, je sortais de ces discussions. Ah, j'étais regonflé. C'était d'un enthousiasme. Et ça, sans être dans l'utopie. Je le répète, on a aujourd'hui les solutions techniques. Mais de toute façon, il a tout dit bien mieux que moi. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend conscience qu'on est un équipage sur ce bateau qui est la Terre. Si à un moment, on se met tous ensemble, on a les solutions techniques. C'est juste de l'humanité, de l'intelligence et de la solidarité. Si on remet ça en place, oui, on va aller vers une Terre bien, bien meilleure et bien plus belle pour les générations futures et même pour nous.
Vous savez que vous aussi, Louis, on vous écouterait ainsi pendant des heures. Mais vous savez qu'à la radio, l'heure, c'est l'heure.
Oui, c'est savez, important.
Ben voilà. Donc là, il est 13h pile. Ça veut dire qu'on est en retard. Parce que dans un instant, on va faire les infos. On se dépêche et puis ensuite, on accueille votre invité. Et je sais qu'on va se régaler avec Jean-Michel Lorrain. A tout de suite. Bon ben voilà, Louis Bonin, il est plus long lorsqu'il est invité que lorsqu'il fait
la météo. Pardon.
Il est 13h02.
Journal inattendu de Louis Bodin.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Avec le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des tensions en début de matinée dans les secteurs de la Porte de Champéry et de la Porte d'Italie. Pour l'instant, 41 interpellations dans la capitale, 1500 contrôles préventifs avaient été effectués. Dans la capitale, donc la préfecture de police a multiplié les interdits de rassemblement, notamment dans le secteur des Champs-Élysées. Des fourgons blindés sont positionnés au pied de l'Arc de Triomphe. C'était plutôt calme, ça se tend de nouveau dans le secteur de la place d'Italie où l'agence bancaire HSBC a été caillassée. Encore 145 000 foyers privés d'électricité dans l'Ardèche, l'Isère, la Loire, le Rhône et la Drôme. Enedis multiplie les interventions. Tiens, écoutez d'ailleurs les explications du directeur de la cellule de crise mise en place par Enedis, Antoine Jourdain.
On a rétabli presque la moitié de l'ensemble des clients. On a 2200 personnes qui sont mobilisées avec 700 personnes qui viennent de l'ensemble de la France en renfort sur la région. Nos équipes sont à pied d'œuvre. La météo commence à s'améliorer, donc on pense que nos hélicoptères vont pouvoir voler cet après-midi, ce qui nous permettra d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait rétablir déjà une grosse partie, mais vous savez, il y a encore des routes qui ne sont pas complètement accessibles, donc je suis optimiste par rapport à notre capacité à réalimenter le maximum dans la journée, mais on n'aura pas fini ce soir, clairement.
Voilà, le patron de la cellule de crise, Antoine Jourdain, avec Agathe Landé, vous l'avez entendu, on n'aura pas fini ce soir, vraisemblablement. Un camouflet politique pour le gouvernement, désavoué par l'Assemblée et donc par sa majorité, qui exclut l'huile de palme de la liste des biocarburants bénéficiant d'un avantage fiscal. Le foot, côté féminin, avec un choc cet après-midi, Lyon-Paris-Saint-Germain. Et puis alors la météo, Louis Bodin, c'est la tradition, c'est à vous de jouer. Et alors là, tout en improvisation.
D'accord, ben en improvisation, mais quand même, bon, j'ai eu quelques éléments ce matin.
Oui, c'est avec, vrai, parce que vous venez de TF1, rappelons-le.
Voilà, donc je triche un peu. Mais en tout cas,
cas, ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, c'est la situation dans le sud-ouest. Hein. On n'est plus dans le sud-est, où là, au contraire, on a retrouvé du soleil, notamment près de la Méditerranée. Mais dans le sud-ouest, on attend une dégradation orageuse entre les Pyrénées, le sud du Massif central, pluie en plaine, neige en montagne, pourrait tomber dès 300 ou 400 mètres sur le Massif central, donc à surveiller. Plus au nord, beaucoup de nuages, mais pas de précipitations. Et quelques éclaircies, donc, dans l'est, le tout avec des températures toujours pas de saison, hein, entre 5 et 9 degrés à peu près dans la moitié nord, et de 9 à 10 degrés dans le sud. Il n'y a que tout près de la Méditerranée où on dépassera les 15 degrés, notamment en Corse, où il y aura quand même des averses.
C'est incroyable. De tous les invités du journal Inattendu, c'est quand même la meilleure météo de 13 ans. Ah bah
métier.
Oui, c'est pas du jeu,
c'est
direz-vous.
Pas du jeu. Merci,
Louis. Le journal Inattendu sur RTL, avec Louis Baudin et Vincent Parisot.
Monsieur du chemin, les relais des cigales. Ça vous rappelle rien? Vous m'avez enlevé mes 10 étoiles! Vous vous souvenez maintenant?
Ah oui, oh.
Et vous m'avez ruiné! Oh, mangez! C'est pas très bon, hein?
C'est même très mauvais.
Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde.
Mais au relais de cigales, c'en était déjà.
Oui, mais c'était moi qui la faisais.
Ah, parce que là, c'est pas vous?
Ah non! Tous les matins, c'est l'usine du grand patron.
Louis de Funès. Vous nous avez demandé Louis de Funès. Je dois dire qu'on a beaucoup hésité parce qu'il y avait tellement de choix.
Tellement,
ah ouais, Bourville avec la grande vadrouille.
Corneau, la grande vadrouille.
Voilà, Salomon, vous êtes juif dans Rabbi Jacob.
Je vous garde quand même.
C'est ça. Bah, l'aile ou la cuisse avec ce restaurateur qui se venge du critique gastronomique véreux du chemin. C'était évidemment une bonne introduction pour votre invité. Vous avez souhaité avoir à vos côtés un grand chef à la tête d'une grande et belle maison. C'est Jean-Michel Lorrain de la Côte-Saint-Jacques à Joigny dans Lyon. Alors, pourquoi d'abord un grand chef et pourquoi lui?
Mais tout simplement parce que ça, c'est l'expression même de nos forces et aujourd'hui des interrogations qu'on peut avoir en France.
Ouais.
C'est une histoire, parce que voilà, c'est une maison qui a une grande histoire. C'est un parcours. C'est une demande d'excellence, c'est notre patrimoine, c'est-à-dire qu'en France, quoi qu'on en dise, alors je suis peut-être un peu chauvin, mais la cuisine française reste pour moi la première dans le monde, même si parfois elle est remise en cause ou elle est challengée par le Japon, par d'autres pays, mais ça reste une force. Et donc, faut en prendre conscience, faut l'assumer, il faut être content de ça, et puis c'est aussi des territoires qui peuvent encore vivre, parce que Jean-Michel va en parler mieux que moi, mais c'est toute une économie locale, c'est des emplois locaux.
Ah oui, d'ailleurs, bonjour Jean-Michel. Michel Lorrain.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. À l'heure du coup de feu, on l'imagine, dans vos
merci,
cuisines.
Jean-Michel.
Merci à Louis de m'avoir invité, surtout.
C'est vrai, je veux juste rebondir là-dessus. Localement, forcément, vous êtes source d'emploi. Vous avez du mal à recruter?
C'est vrai, Louis en parlait tout à l'heure. On a beaucoup de mal à recruter. Aujourd'hui, on recherche une personne en cuisine, en pâtisserie, en salle, au spa. Et donc, compliqué. C'est compliqué.
Ça fait 5 postes éventuellement à offrir aujourd'hui dans votre établissement, la Côte-Saint-Jacques.
Et dans un cadre, dans un contexte, avec un entourage qui est plutôt quand même bienveillant, bénéfique, où les exigences ont fait de belles rencontres.
Enfin, puis on y mange bien.
Oui.
On va bien sûr parler gastronomie. Je voudrais tout d'abord évoquer une association que vous avez créée avec votre épouse Karine. Dessine-nous un avenir.
Oui.
De quoi s'agit-il? Pourquoi vous faites ça? Je vois que vous distribuez aux enfants qui viennent manger avec leurs parents, hein, j'imagine, à la Côte-Saint-Jacques, un petit livret.
Alors avec Karine, on voyage beaucoup.
Ouais.
Et au fil de nos voyages, notamment en Afrique, on a pris conscience, et en discutant avec les populations locales, on a pris conscience de cette urgence à agir dans ce sens, dans la protection de la nature en général et de la biodiversité en particulier. Et donc, on a souhaité pouvoir apporter notre toute petite pierre à l'édifice en créant cette association. Alors on sensibilise les enfants,
oui.
On leur offre ce livret, on leur demande de faire un dessin, c'est pour ça que l'association s'appelle Dessine-nous un avenir, oui. On leur demande de faire un dessin qui représente pour eux, ce que représente pour eux la biodiversité.
Oui.
Voilà. Et puis c'est un petit concours et donc tous les 4 mois, il y a un vainqueur et c'est les enfants qui invitent leurs parents, l'enfant gagnant invite ses parents à la Côte-Saint-Jacques.
Le gamin qui dit à ses parents, bon papa et maman, ce week-end je vous invite à la Côte-Saint-Jacques,
voilà, c'est
moi qui régale. Alors, Alors, la lutte voilà, pour la planète, vous rappelez qu'un geste simple, par exemple, je ne gaspille pas l'eau, hein, je trie, je recycle, ou je ne gâche pas la nourriture. Vous faites ça à la Côte-Saint-Jacques ?
Oui, c'est vrai. Chaque décision aujourd'hui qui est prise, on le prend, on essaye de la décliner avec le volet préservation de la planète. On a créé un jardin de 2000 m² où on utilise pas mal de légumes locaux et nos propres légumes. On trie à peu près, on recycle à peu près 80% de nos déchets.
Ah oui.
Voilà, on va dans une direction avec des vins en biodynamie. Voilà, donc le plastique, on travaille tout au quotidien. On a supprimé bien sûr les pailles, etc. Mais on essaie d'aller plus loin aussi. Et donc chaque décision prise dans la maison, il y a toujours ce volet.
Techniquement, ouais. D'ailleurs, comment vous remplacez les pailles ?
Ah, on a des pailles en paille. Tout simplement.
Des vraies pailles.
Des vraies pailles.
Ah bah, d'un seul coup, on se souvient qu'une paille, oui, c'était une paille.
Voilà, c'était une vraie paille.
C'est formidable. Vous faites cette citation dans le livret, hein, donc « Dessine-nous un avenir que vous distribuez aux enfants. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » C'est pas de Greta Thunberg, c'est de Saint-Exupéry.
Exactement. Ouais.
Ça, tout est dit, finalement.
Oui, et puis bon, pour aller un peu plus loin, parce qu'on ne demande pas juste aux enfants de dessiner, on sollicite aussi, on a choisi deux associations, Aweli et Kalawait, qui défendent sur le terrain la biodiversité et les espèces menacées. Et donc, on reverse à cette association de l'argent qu'on peut récolter. Alors, de deux façons. La première façon, c'est nous-mêmes, la Côte-Saint-Jacques, tous les enfants qui viennent à la Côte-Saint-Jacques, 50% de leur consommation est reversée à notre association.
Ah bah ça, c'est pas mal.
Et la deuxième, on sollicite évidemment nos clients à nous aider et à ajouter quelques euros à leur addition.
Voilà, parce que finalement, l'addition... Alors, évidemment, lieu d'exception, hein, tarif d'exception, moment d'exception, en général, les grandes occasions. Mais le midi en semaine, on déjeune, une entrée, un plat, un dessert, moins de 80 euros. C'est un défi, ça, c'est pour une maison aussi comme la vôtre, parce que combien de salariés
70 salariés.
Voilà, oui. Forcément. C'est un défi d'arriver à proposer une addition, allez, comment dire,
raisonnable.
Alors, ça reste, oui, tout est relatif, bien sûr, ça reste un prix. Hein, 79 euros, ça reste un prix, on en a bien conscience. Mais c'est très important pour nous, parce qu'on est une entreprise familiale. Cette maison, j'avais un client qui me rappelait ça l'autre jour. Il avait souvenir d'un menu à 2,50 francs. Oh là. Dans les années 50 de ma grand-mère. bon, il avait 90 ans.
Oui, parce que c'est une affaire de famille, rappelons-le.
Voilà, on a évolué, mais on veut rester accessible à l'immense majorité de la population, parce que c'est très important que des restaurants comme les nôtres restent collés à leur terroir et restent collés à la région, et que le maximum de personnes puissent y accéder.
Ça fait envie.
Oui, ça fait envie.
Ça ouvre l'appétit aussi.
Et puis je crois à cette émotion. Enfin, c'est par l'émotion, c'est par le partage, c'est par la transmission, et c'est exactement ce qu'offrent des maisons comme celle-ci. Oui, ça reste exceptionnel. Moi, j'y vais de temps en temps. J'ai envie d'y aller plus, mais ça reste exceptionnel. Mais ça en fait aussi le charme. Voilà,
bien
on
sûr.
Se dit, voilà, ça fait un objectif. On le fait 2-3 fois par an, et ça reste des moments incroyables de partage et puis de saveurs. Vous allez voir, découvrir des saveurs. Vous dites. Ah ben, je ne savais même pas que ça existait.
C'est chez Jean-Michel Laurent à la Côte-Saint-Jacques. Je précise que vous avez une fille qui, elle, est à Bangkok, dans votre deuxième restaurant. J'aime votre fille Marine. Et que là-bas, elle propose de la cuisine française avec 80% de produits locaux.
Oui, c'est la même démarche, exactement. On a choisi de faire la cuisine française qui nous tient à cœur, mais avec des produits qu'on va chercher autour de Bangkok.
Merci beaucoup d'être venu nous voir, Jean-Michel Laurent, à la Côte-Saint-Jacques.
C'est un grand plaisir.
On vous libère.
Merci, Jean-Michel.
Pour que vous retourniez dans vos cuisines, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Michel Laurent.
C'est gentil.
On marque une courte pause et dans un instant, on s'intéresse à qui ?
À Louis Baudin.
Le journal inattendu sur RTL.
Il y a
RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Louis Baudin et Vincent Parizeau.
Did you ever want it?
Alors si si vous nous suivez sur RTL.fr ou que vous allez voir la vidéo, vous pourrez observer Louis Baudin danser. Hein. Ouais. Moi, je ne l'avais jamais vu danser. Hein. C'est une vraie surprise pour le journal inattendu. Magnifique morceau, texte bouleversant de Michael Kiwanuka.
Oui, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, on va dire, non, mais il sort d'où, on ne peut pas le connaître, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un artiste incroyable.
Ouais.
Et là, il ressort donc un nouveau CD. Mais alors, il est dans la droite succession de Marvin Gaye, d'Otis Redding. Voilà, j'adore ces voix-là, j'adore cette ambiance-là. Donc,
Même si cette chanson parle du désespoir.
Du désespoir. Non, mais c'est un artiste incroyable. Non, je cite tout le monde à le découvrir. C'est soul, c'est moderne, c'est en même temps là aussi dans la tradition. Enfin, moi, j'aime bien toujours ce lien entre le passé, notre histoire, d'où on vient, parce que c'est ce qui va construire l'avenir. C'est comme ça qu'on crée un socle. Mmh. Et dans la musique, je trouve que ça représente exactement cette évolution. C'est incroyable.
Alors, Louis, la semaine dernière, Richard Berry était à votre place et il vous a posé une question qui me fait bien sourire. Allons-y, écoutons-le.
Bonjour Louis Baudin, c'est Richard Berry. Je suis passionné par la météo et par le travail que vous faites, mais en revanche, j'aimerais vous poser une question qui n'a rien à voir. J'aimerais bien savoir quel est votre costumier ou qui s'occupe de vos vêtements, car je suis toujours très impressionné par, votre élégance, entre guillemets, et les costumes que vous portez.
Eh ben voilà, et il est pas le seul.
Non.
C'est vrai, Louis. Alors, je ne sais pas qui est votre tailleur.
Je me débrouille tout seul. En fait, il y en a plusieurs. J'achète mes vêtements. D'ailleurs, je fais un petit appel. Hein, si un couturier veut m'habiller, je suis preneur parce que.
Est-ce que ça a toujours été le cas lorsque vous étiez sur des voiliers, lorsque vous faisiez du vol libre, lorsque vous aviez des cheveux sur le crâne. C'est moi qui en parle.
Il y a eu cette époque-là.
Oui, oui. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu sur le tard, cette élégance?
Non, ça a toujours été une envie. Je ne dis pas que mes goûts étaient toujours très élégants. Quand je me revois quelques photos jeunes, je me dis les pattes d'éléphant.
Il faut dire que les années 70-80, c'était pas forcément génial pour ça.
C'était pas forcément extraordinaire. Mais oui, puis après, évidemment, en fonction de son évolution, en fonction après de ses capacités économiques, on peut essayer d'être un peu plus élégant. Puis après, il y a une vraie responsabilité. C'est-à-dire que là, pour le coup, aujourd'hui, étant un personnage un peu public, un peu connu, oui, il y a une envie d'être toujours correct, ou en tout cas de me présenter le mieux possible aux gens.
C'est plus que correct, c'est parfois c'est un peu tiré à quatre épingles.
Voilà, j'essaie de lui mettre une petite touche parce que parfois je peux parler devant 7 millions de personnes ou plus d'un million sur RTL.
C'est
et
une
autres,
question de respect aussi par
c'est
rapport...
C'est pour moi aussi une question de respect.
Ouais, ouais. Alors remontons le temps justement, 17 ans, vous avez 17 ans, vous n'avez pas encore le permis de conduire, mais vous avez déjà votre brevet de pilote de vol libre, c'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable, c'est merci ce que l'État faisait à l'époque parce que je le répète, ma famille était modeste, mon père était militaire, on était trois, voilà, on avait juste ce qu'il faut pour bien vivre, se développer, mais il y avait des bourses aéronautiques. Et donc, on a pu en profiter. Et c'est comme ça que moi et mes frères, on a pu passer notre brevet de pilote planeur. Et c'est vrai que j'ai eu mon brevet de pilote planeur avant d'avoir le permis de conduire.
En même temps, vous êtes un matheux, maths sup, maths spé. Désir devenir pilote de chasse, voulez devenir pilote de chasse, puis ça se fait pas parce que...
Parce que j'ai pas la vue adéquate, faut être parfait physiquement pour être pilote de chasse, et c'est normal, parce que il y a derrière une exigence et un travail qui est sans commune mesure avec le commun des mortels, pour les avoir un peu côtoyés.
Ça vous a pas empêché d'aller dans un rafale et d'être catapulté du Charles de Gaulle.
Exceptionnellement, la marine a accepté qu'un civil embarque dans cet appareil et pour la première fois soit catapulté.
Plein gaz, plein gaz.
La propulsion au départ, elle est quand même assez extraordinaire.
Ce qu'on va faire, c'est toi qui vas les appeler, le corbin, et tu vas leur parler.
Non.
Alpha Whiskey Tango, Foxtrot Tango.
Alpha Whiskey Tango, Foxtrot Tango, là vous avez touché le rêve du bout des doigts.
C'est quand même hallucinant, comme la vie peut réserver, il faut garder espoir, quoi, parce que merci TF1, je vais être un peu chauvin, et parce que j'ai pu faire un vol en rafale, enfin j'en ai même fait deux, j'ai 2h45 de vol en rafale, quoi, c'est quand même incroyable. Et puis là, effectivement, après un travail de fidélité, de confiance avec la Marine nationale, mais ils ont proposé au ministère, parce que c'est la ministre ou le ministre qui donne l'autorisation qu'un civil puisse embarquer sur un avion militaire, et j'ai eu cette chance incroyable de faire un décollage et un appontage sur le Charles de Gaulle. Ça restera dans des grands moments d'émotion matérielle dans ma vie.
Ouais. Ouais, et puis ça doit secouer quand même, hein, j'imagine.
Ah, ça secoue, mais j'étais prêt, et puis je crois que rien n'aurait pu m'arriver, parce que voilà, c'est un moment rare, faut en prendre conscience, faut le vivre complètement, faut se mettre en vibration, parce que ça dure pas longtemps, voilà, malheureusement.
Ah non, ça va vite. L'aviation, je sais, reste une passion, comme l'automobile, hein, je sais aussi, vous aimez les belles voitures, vous aimez aller vite quand c'est possible et que c'est permis.
Oui, alors voilà, je me suis un peu calmé, mais moi, j'aimais bien aller vite en moto ou en voiture, et encore aujourd'hui, parfois ça me dérange, mais il faut se retenir.
Et puis bien sûr, la voile, on rappelle que vous avez été routeur de Florence Artaud, de Yves Parlier, de Paul Vatine, de bien d'autres, puis un jour, un passionné de voile, Philippe Gildas, vous contacte, et c'est comme ça que vous rentrez à la télévision, puis la chaîne Météo, TF1, RTL, aujourd'hui, vous êtes là, hein, c'est ça.
Bonsoir. Oui, nette amélioration aujourd'hui dans le sud-est, près de la vallée du Rhône. Retour d'un temps sec. Rebonsoir. Demain,
C'est encore lui, Louis Baudin.
Et sur RTL. Hein.
Et sur RTL, chaque matin, évidemment, dans
RTL,
la matinale.
Hein, parce que c'est RTL qui m'a donné ma chance et qui m'a permis ensuite d'aller sur TF1. Donc Noël Coudel. Voilà, il y a plein de rencontres, hein, dans une vie qui permettent ça. Il y a eu Paul Ayas qui m'a permis de rentrer dans le milieu de la voile, Florence Artaud, et puis Nonce Paolini qui m'a fait confiance pour venir à TF1. Donc oui, c'est aussi des grandes rencontres, et merci à tous ces gens-là. Faut rester humble, hein. D'un seul coup, on se dit ouais, je suis meilleur. Non. C'est tout un parcours, c'est du travail, c'est de la patience. Et puis c'est parfois et souvent des gens qui, à un moment, vous donnent votre chance. À vous de la saisir. Hein. Après, faut pas la manquer. Faut être digne de cette chance. Mais ça, c'est voilà, faut pas oublier ça non plus.
C'est tout un parcours, et c'est un sacré parcours. Je le disais, ça me fait sourire. Louis Baudin, il est à voile et à moteur, parce qu'effectivement, les avions, c'est sa vie, la voiture,
la voile, et aujourd'hui la nature, et aujourd'hui cette envie de transmettre ce plaisir de la nature.
On va en parler dans un instant, encore une fois, de ce parcours avec une rencontre. Vous parliez de rencontre, tiens, vous allez rencontrer un invité surprise au téléphone. Tout de suite. Oui.
Le journal inattendu sur RTL avec Louis Baudin et Vincent Parisot.
Cuit, grand sourire.
Le journal inattendu sur RTL avec Louis Baudin et Vincent Parisot.
Quand je raconte une histoire à mes nièces danoises, je leur demande toujours de me donner la première phrase.
Au hasard ?
Absolument au hasard.
Il était une fois un chinois errant qui s'appelait Chen Wang. Il vivait dans un faubourg de Londres avec une jeune fille qui s'appelait Shirley.
Qui parlait parfaitement le chinois, pour l'avoir appris auprès de ses parents missionnaires.
La première seconde, vous avez reconnu Louis, Out of Africa, chef d'œuvre de Sidney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford. C'est votre choix. Alors pourquoi ? Pour le scénario, les dialogues, les images, les couleurs, l'Afrique, la musique de John Barry qu'on entend.
Mais tout. Il y a la beauté, il y a le respect, il y a les interrogations, ce rapport à l'Afrique. Moi, le continent africain, c'est un continent que je ne comprends pas. C'est un continent mystérieux, qui est fascinant, qui a toutes les chances, qui a tout ce qu'il faut, et qui pour l'instant est quand même un peu en difficulté. Mais est-ce qu'il l'est vraiment ? Comment ? Enfin, honnêtement, c'est un continent que je ne comprends pas et qui est d'une beauté fascinante. Et Out of Africa montrait tout ça. Et c'était extraordinaire.
Louis, alors tout autre sujet, il y a un peu plus de 2 ans, vous avez répondu à une interview et à la question sur une éventuelle reconversion, vous répondiez devenir vigneron en Champagne. C'est toujours vrai, ça ?
Ah ben c'est toujours vrai. Si j'avais des sous aujourd'hui, j'achèterais des hectares de Champagne, parce que c'est la vie.
Bonjour Fabrice Rosset. Bonjour.
Bonjour Vincent Parisot. Bonjour mon cher Louis.
Bonjour Fabrice.
Président de la maison Dutz, hein, c'est un grand nom du Champagne évidemment, maison créée en 1838. Vous connaissez bien tous les deux, Louis ?
Ben oui, on se connaît bien parce qu'on partage un certain nombre de valeurs, comme avec Jean-Michel. Il y a évidemment, on peut se dire, oh, ils sont entre eux, c'est dans l'excellence, c'est dans quelque chose d'inaccessible. Non, ne vous dites pas ça, la chère auditeur qui a écouté. Moi, je suis parti tout en bas. Moi, je vais raconter ma vie. Mais j'allais devant les menus dans ces grandes tables. J'avais pas accès financièrement. Mais je disais, mais un jour j'irai. Ouais. Un jour j'irai.
Et vous rêviez voilà, devant les menus.
Devant les menus. Ouais. Et ça doit être une motivation. Puis un jour, il faut y accéder. C'est la même chose pour le champagne d'excellence ouais. que fait Fabrice.
Fabrice Rosset, élu vigneron de l'année hein, par le Guide ouais. Hachette en 2017. C'est Fabrice mérité. Rosset, quel conseil vous pourriez donner à Louis ? Parce que vous l'avez entendu, il veut acheter quelques hectares en champagne.
Les conseils, c'est de s'armer de patience. Mais enfin, tout d'abord, je crois que Louis réunit toutes les valeurs fondamentales. On parlait de passion, de respect de la nature, et ça, c'est un aspect fondamental pour devenir vigneron dans quelque région que ce soit. Et en Champagne, voilà. Alors, il serait parmi les 15 000 viticulteurs qui opèrent en Champagne.
Et qu'est-ce qu'il faut par rapport à, j'allais dire, à un vigneron traditionnel qui fait du vin classique qu'est-ce qu'il faut en plus pour être en Champagne ?
Alors, la position septentrionale fait que les conditions sont... suggère une certaine pénibilité du métier. Cher Louis, il le sait très bien d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas mieux placé que lui pour évaluer la pénibilité due aux conditions climatiques. C'est un petit peu c'est la première différence. Et puis les travaux de la vigne finalement sont à peu près partout les mêmes.
Ça vous fait rêver, Louis, la vie de Fabrice Rosset, oui, ce qui se passe par exemple dans une maison de champagne comme la maison d'Eutz.
Mais bien sûr, parce que c'est une remise en cause permanente. Rien n'est jamais acquis parce qu'effectivement la météo peut tout vous mettre par terre et puis il y a des moments elle offre une espèce comme ça, tout s'aligne bien et puis ça vous crée une récolte qui va être extraordinaire, ça va permettre de faire des millésimes, ça va permettre de faire un vin extraordinaire, mais c'est remis en cause tous les jours parce qu'il suffit de quelques gelées pendant quelques jours, parfois quelques heures pour que vous perdiez une grande partie de votre récolte. Donc voilà, c'est ce travail et puis de progresser, de faire évoluer les goûts du champagne au 19e siècle, mais on n'en voudrait pas aujourd'hui, on dirait ça n'a aucun goût. Voilà, il faut suivre l'évolution du goût et travailler en permanence.
C'est vrai que vous pourriez parler des heures du champagne. Oui, mais sans problème. On a un timing à respecter. On salue Fabrice Rosset.
Merci Fabrice, et à bientôt. Hein.
Voilà, avec un concurrent hein, pour le champagne d'Eutz. À bientôt le champagne Baudin, peut-être.
À bientôt. Et n'oubliez pas de sabler le champagne tout à l'heure.
Non, on va penser à vous. Merci beaucoup. Merci Louis Baudin. Nous sommes tous météo sensibles. C'est paru il y a quelques jours chez Albin Michel. Évidemment, il faut l'acheter. À très bientôt sur l'antenne d'RTL. Bah,
merci Vincent de m'avoir invité dans l'émission. C'était un grand, grand bonheur de partager toutes ces valeurs avec vous, avec toi.
Allez, avec toi. Allez. Salut Louis, à la prochaine. Et dans un instant, Jean-Alphonse Richard, confidentiel, avec aujourd'hui Nino Ferrer.
RTL, le journal inattendu.